Le message que vous allez écouter a été prêché à l'origine par John MacArthur de Grace Community Church, qui se trouve au sud de la Californie. John est pasteur, auteur, président du Master College and Seminary. Il est également le prédicateur principal de Une Grâce pour vous, un ministère d'enseignement biblique par les médias diffusé dans le monde entier. Ce message, traduit en français, vous est présenté par Une Grâce pour vous et ses partenaires. Après cet enseignement, nous vous communiquerons les informations qui vous permettront de vous connecter sur le site Une Grâce pour vous. Maintenant, écoutez l'enseignement de John MacArthur qui vous expliquera la vérité de Dieu au travers des versets bibliques.
Ouvrons nos Bibles ce matin au 18e chapitre de Matthieu. Nous étudions Matthieu chapitre 18 depuis quelques mois et nous arrivons au dernier passage de cette partie, au verset 21 à 35. C'est vraiment un passage qui traite un seul thème, mais nous allons probablement le voir ensemble, pendant deux cultes. Dans ce grand chapitre, nous avons vu notre Seigneur enseigner sur la petitesse du croyant, et vous vous souviendrez que, au verset 2, le texte nous dit que Jésus a effectivement pris un enfant et l'a tenu dans ses bras pour qu'il fût utilisé, comme une illustration vivante, une analogie, si vous voulez, du fait que le croyant ressemble à un enfant. Puis il a commencé à enseigner des éléments pertinents à l'enfance. Premièrement, nous devons entrer dans le royaume comme des enfants. Le verset 3 dit « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ensuite, nous devons être protégés comme des petits-enfants. Le verset 6 dit « Quiconque offensera l'un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'une meule fût pendue à son cou et qu'il fût noyé au fond de la mer. Nous devons être soignés comme de petits-enfants. » Le verset 10 dit « Veillez ne pas mépriser l'un de ces petits-enfants, car les anges voient toujours la face de mon Père qui est dans les cieux. Le Fils de l'homme, dont nous avons parlé, se soucie d'eux, ainsi que le Père dans les versets 12-14. Nous devons donc entrer dans le royaume comme des enfants. Nous devons être protégés comme des enfants. Nous devons être soignés comme des enfants. Ensuite, lors de nos deux dernières lectures de ce chapitre très important, nous savons que nous devons être disciplinés comme des enfants. Les versets 15 et suivants nous disent que nous devons être disciplinés. Quand l'un de nous pêche, il doit être repris par les autres pour être corrigé, pour être restauré. Maintenant que nous arrivons au verset 21, nous noterons que nous devons être pardonnés comme à des enfants. Il faut être tolérant avec les enfants, parce que nous comprenons leur faiblesse. Nous comprenons leur ignorance. Nous comprenons leur incapacité. Être enfantin, c'est montrer que nous allons échouer. Il y aura des moments où nous ferons de mauvaises choses. Nous sommes encore en train de mûrir, de grandir, de gérer notre comportement. Mais lorsque nous péchons, et après que la discipline ait été appliquée, nous devons également être pardonnés, tout comme les enfants doivent être pardonnés. Les gens peuvent assez facilement garder rancune contre d'autres adultes, mais il est quelque peu anormal de garder rancune quand il s'agit d'un enfant. Nous avons tendance à pardonner assez facilement aux enfants. Les adultes ont du mal à se pardonner, et nous devons donc nous rappeler l'enseignement de ce passage, selon lequel les croyants doivent être traités comme des enfants, car nous le sommes au sens spirituel, et nous avons besoin du même type de pardon gracieux que celui de l'enfant. Maintenant, le pardon est une très grande vertu. Je crois vraiment que c'est la clé de l'unité de l'Église. C'est la clé pour aimer. C'est la clé pour des relations significatives. C'est ce qui détruit constamment les barrières qui tentent, à travers le péché, d'être construites pour nous séparer les uns des autres, pour nous isoler, pour nous rendre amers, en colère et vengeurs. Le pardon est un concept formidable. En fait, dans Proverbe 19, 11, il est écrit « L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Il met sa gloire à oublier les offenses. » En d'autres termes, si vous voulez voir l'homme sous son meilleur jour, il faut regarder sa capacité à pardonner. En oubliant une transgression, en oubliant un péché et un mal. Éphésiens 4, verset 32, va encore plus loin dans la pensée des chrétiens et dit que nous devons nous pardonner réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Basé sur le fait que nous avons reçu le pardon de Dieu en Christ, nous devons offrir le pardon aux autres. Colossiens 3, 13 a la même pensée dans ces mots. Pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. C'est la gloire d'un homme de pardonner un autre, et particulièrement à un chrétien qui a été pardonné par Dieu à travers Christ. Si, en fait, c'est le meilleur des hommes en ce qui concerne la qualité de son caractère de pardonner, si c'est en tant que chrétien que nous avons été pardonnés de tout, combien nous devrions être empressés de pouvoir pardonner aux autres? Si vous regardez dans l'Ancien Testament, il y a une perspective exaltée sur le pardon. Nous nous souvenons tous, avec beaucoup de respect, de la merveilleuse histoire de Joseph, qui a pardonné à ses frères, au chapitre 50 de la Genèse. Je ne sais pas si vous vous rappelez comment ce chapitre se termine, presque à la fin du livre, mais il est dit au verset 20. « Vous aviez médité de me faire du mal, dit Joseph à ses frères, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Il les consola, en parlant à leur cœur. Ses frères l'avaient jeté dans une fosse, l'avaient vendu comme esclave, et l'avaient traité comme s'il était mort. Il leur a tout pardonné. Je pense que nous nous rappelons tous avec beaucoup de respect le tendre pardon et la sensibilité que David a exercée envers Saül. Saül avait passé sa vie à essayer d'assassiner David, et David aurait facilement pu passer son épée sur Saül endormi, mais il ne le fit pas. Il avait un cœur de pardon. Nous trouvons cela exprimé dans 1 Samuel 24, verset 7. Nous retrouvons David, un modèle de pardon, pardonnant à Nabal son mal à Abigaïl, son épouse implorante, 1 Samuel 25. Bien entendu, ce texte très familier, dans 2 Samuel 19, où Shimei avait maudit David, et où les amis de David ont dit « Dévastez l'homme, détruisez l'homme, tuez l'homme. » Au lieu de cela, David lui pardonna. Le pardon est la gloire d'un homme. C'est la plus haute vertu humaine. Vous me montrez un homme honorable. Vous me montrez un homme avec un vrai caractère. Et je vous montrerai un homme qui sait pardonner. Vous me montrez un homme qui porte de l'amertume au fond de son âme. Et je vous montrerai un homme sans caractère. Vous me montrez une personne qui ne peut pas libérer une attitude vindicative, amère, antagoniste et haineuse envers quelqu'un. Et je vais vous montrer un homme qui ne connaît pas non plus la gloire d'un homme, qui ne comprend pas le pardon de Dieu. C'est le meilleur d'un homme qui lui permet de pardonner. Écoutez ceci, parce que cela vient du cœur de Dieu de pardonner. Et lorsqu'un homme pardonne, il rayonne de ce qui est vrai de l'image de Dieu. Le pardon est si fondamental dans le cœur de Dieu qu'il devrait certainement l'être dans le cœur des enfants de Dieu. Autant apprendre à pardonner, car les personnes autour de vous vont en avoir besoin. Puis-je ajouter, vous aussi en aurez besoin. Les enfants de tous les peuples ont besoin de pardon, et nous sommes des enfants. Nous sommes faibles, nous sommes ignorants, nous sommes égoïstes, nous sommes enclins à désobéir, et nous avons souvent besoin de pardon. Nous sommes de tels enfants. Maintenant, notre Seigneur vient de terminer une section sur la discipline des pécheurs. Il poursuit magistralement avec une section sur le fait de leur pardonner. Vous vous souvenez que dans 2 Corinthiens, chapitre 2, il y avait un homme dans l'assemblée corinthienne qui avait péché. Cet homme en particulier avait été discipliné par l'assemblée des croyants. Paul leur dit dans 2 Corinthiens 2:6, « Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En d'autres termes, vous l'avez suffisamment puni. Vous avez suffisamment fait le point. Vous avez fait ce qu'il fallait faire pour le réprimander de son péché. En sorte que, au verset 7, vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte, est-il dit au verset 8, donc, à faire acte de charité envers lui. Puis il ajoute, si vous ne le faites pas, au verset 11, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Et l'un de ses procédés est de générer un esprit amer et un cœur impitoyable. Maintenant, nous avons tous besoin d'apprendre à pardonner, parce que nous avons tous besoin d'être pardonnés, parce que Dieu nous a pardonnés. C'est le meilleur d'un homme de pardonner, et c'est le meilleur, si je puis dire, de Dieu de pardonner, car c'est l'expression de sa nature aimante. Nous voyons donc dans ce passage, commençant au verset 21, une transition vers la question du pardon. Je ne vais pas seulement en parler cette semaine, je vais aussi passer la semaine prochaine sur le même thème, car c'est très important. Il peut même dériver vers une troisième semaine. J'ai beaucoup de choses à dire, en dehors du texte. Je ne sais pas combien de temps il me faudra pour les lire. C'est un des problèmes, de ne jamais avoir enseigné un passage auparavant. Vous ne savez pas vraiment ce que le Seigneur va faire dans le processus, mais regardons un aperçu. Tout d'abord au verset 21. L'interrogation sur le pardon. L'enquête sur le pardon. Maintenant, après toute cette discussion sur la discipline et sur la manière dont nous devons affronter le pécheur et réprimander le pécheur, rétablir le pécheur et tout cela, Pierre a posé une question très perspicace. « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi ?» C'est une bonne question. Vous voyez, Pierre connaît la tendance des hommes. Vous savez pourquoi il le sait ? Parce qu'il se connaît, il savait combien de fois il avait besoin d'être pardonné. Il parle également, hors du contexte, de son origine juive, où il y avait certaines lois dures en ce qui concerne le pardon. Il parle dans toute cette affaire d'une personne qui pêche et est restaurée. « Tu sais le problème, Seigneur, ils vont le faire, et nous allons les restaurer, et ils recommenceront tout de suite, ou ils vont faire autre chose. Je veux dire, combien de fois continuons-nous à leur pardonner ? Ils pouvaient anticiper l'incapacité de l'homme à transformer sa vie et à ne plus pécher. Donc, ils pourraient vous voir corriger cette chose. Peut-être que cela se produira plus tard, ou quelque chose de semblable se produira plus tard. Vous allez être obligé de pardonner à cette personne, encore et encore. Combien de fois faisons-nous cela ? Remarquez la phrase. Alors Pierre s'approcha de lui. Ils sont assis ensemble dans la maison de Capharnaüm, où notre Seigneur enseigne avec un petit enfant dans ses bras. Et Pierre se penche en avant et s'approche de Jésus. Peut-être y a-t-il un petit intervalle de temps entre l'enseignement précédent et celui-ci. Nous ne savons pas. Mais il fait un pas en avant, se rapproche de Jésus, et il a vraiment une question brûlante en tête. Puis j'ajoutais simplement, en tant que petite indication sans rapport avec ce texte, que nous devons énormément à Pierre pour beaucoup de choses. L'une d'entre elles est qu'il a posé des questions. Que Dieu bénisse les personnes qui posent des questions, parce que ceux qui posent des questions aux bonnes personnes obtiennent des réponses. Parfois, nous pouvons tous apprécier la réponse. Pierre a posé des questions. Ces questions impulsives et son esprit inquisiteur lui ont valu des ennuis. Mais d'un autre côté, il a obtenu du Seigneur beaucoup d'enseignements profonds, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'il a posé des questions. Pierre a donc entendu parler de la discipline, et à ce moment-là, il a dit « Maintenant, Seigneur, disons que nous poursuivons cet homme, que nous le ramenons, que nous le restaurons, et nous avons même gagné notre frère, comme il est dit à la fin du verset 15. Combien de fois le faisons-nous s'il pêche à nouveau ? Ou s'il continue avec le même péché ? Le pardon a-t-il une limite ? L'avez-vous compris ? C'est vraiment la question essentielle de l'ensemble du texte. Le pardon a-t-il une limite ? Vous dites à quelqu'un, « Tu es allé trop loin. » Je veux dire, il y a des choses que je peux pardonner, d'autres que je ne peux pas. Ou alors, « Je t'ai déjà pardonné 5 fois pour cela. » Je veux dire, c'est fini. Tu as dépassé la limite. C'est ce que demande réellement Pierre. Remarquez qu'il dit, « Combien de fois mon frère pêchera-t-il contre moi ?» Version Derby. Vous souvenez-vous de ce que nous avons dit plus tôt à ce sujet ? Le « contre moi » ne signifie pas nécessairement que le péché était directement contre vous, au sens physique, ou dans le sens de toucher votre vie personnellement, volontairement, directement, mais que le péché était contre vous, directement ou indirectement. En d'autres termes, tout péché dans l'assemblée affecte l'assemblée. Mais l'idée que Pierre ajoute « contre moi » vous met vraiment dans une situation où vous ressentez le manque de pardon, ou la douleur qui vous pousse à dire « c'est suffisant pour vous, je ne vais pas pardonner cela ». J'ai entendu des personnes dire « je ne pardonnerai jamais à cette personne pour ce qu'elle m'a fait ». Il y a peu de temps, un homme s'est confronté à moi. Il m'a maudit et m'a traité de chaque nom auquel il pouvait penser. Et c'est un homme du ministère. Vous en avez certainement entendu parler si je vous dis son nom. Il m'a traité de chaque nom qu'il avait dans son vocabulaire, parce qu'il voulait se venger de moi depuis 5 ans, pour quelque chose qu'il n'aimait pas chez moi. Maintenant, s'il avait raison ou tort de dire ce qu'il n'aimait pas, ce n'était même pas le problème. Quel est le problème ? Sa colère, son amertume et son manque de pardon. Il m'a dit, « Je n'oublierai jamais ce que tu as dit. C'est l'antithèse même de la gloire de l'homme et du cœur de Dieu. » Donc Pierre dit, « Regardez. Si cela se produit contre moi, et que cela est si près de moi, que je pourrais avoir une bonne raison de maintenir une attitude impitoyable, combien de fois dois-je pardonner ? Puis il ajoute à la fin du verset 21, « Sept fois ?» Vous savez, il attend des félicitations. Il attend que le Seigneur dise « Merveilleux Pierre, tu es tellement magnanime. » Je pense que beaucoup de personnes, la plupart des personnes, ont du mal à pardonner, même une fois. Vraiment. Louis XII dit « Rien ne sent plus doux que le cadavre de ton ennemi. » Cela exprime peut-être quelque chose des sentiments de la plupart des hommes. Le pardon est très étranger à la nature de l'homme. C'est pourquoi nous sommes tous quelque peu choqués lorsque nous voyons Jésus mourir sur la croix et que des personnes crachent sur lui. Ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête. Ils ont enfoncé des clous dans ses membres. Il est suspendu nu avec des mouches et du sang, comme une cape devant tout le monde qui regarde. Et il lève les yeux en disant « Père, quoi ? Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est pourquoi nous sommes choqués dans Actes 7, 60, de voir Étienne écrasé sous les pierres ensanglantées à l'extérieur de la ville où il a été jeté. On lui lançait ses pierres sur son corps pour lui ôter la vie, et il leva la tête pour dire « Ne leur impute pas ce péché ». Et je pense que la profondeur du témoignage d'Étienne a touché particulièrement un de ceux qui se trouvaient là, tenant les manteaux de ces hommes meurtriers, sous le nom de Saul. Le peuple de Dieu doit ressembler à Christ. Le peuple de Dieu doit ressembler à Étienne, en particulier quand il est avec les autres chrétiens. Nous ne devons rien reprocher à une personne qui nous a fait du tort, peu importe ce qu'elle nous a fait, même s'il s'agit d'un péché intime. Dieu a été discrédité. Avez-vous entendu le psaume que j'ai lu ce matin? Dans le psaume 51, David a dit « Contre toi, toi seul, toi, le seul Dieu, j'ai péché. » Et j'ai fait ce mal devant toi. Il a crié à Dieu contre qui il a péché. Quel est le cœur de Dieu envers David? Le pardon. Vous avez fait la même chose. Vous avez péché contre Dieu. Chaque péché que vous avez commis dans toute votre vie a été commis contre Dieu. C'est comme si vous pénétriez dans sa sainte présence, au milieu des cieux, et péchiez devant son trône, devant lui. C'est audacieux. Chaque péché que vous avez commis a toujours été commis devant Dieu. Et il vous a pardonné. Êtes-vous meilleur que Dieu pour ne pas pardonner ceux que Dieu pardonne? Vous ne connaissez même pas du tout le mal que peut causer un péché. Pour deux raisons. 1. Vous n'êtes pas omniscient. Et 2. Vous n'êtes pas si saint que vous pouvez comprendre l'état de péché total. Alors la question, combien de fois dois-je pardonner? 7 fois? Pierre pensait vraiment qu'il était généreux. Maintenant, cela nous mène vers la recherche sur le pardon, à la mesure du pardon. Encore une fois, au verset 21, Pierre dit « Cette fois, Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Maintenant, qu'est-ce que Pierre avait en tête quand il a dit 7 fois? Il pensait qu'il était très généreux, non? À quoi pensait-il? Laissez-moi vous dire quelque chose. La tradition juive dit que si vous pardonnez à une personne 3 fois, c'est la limite. Laissez-moi vous ramener dans votre Bible, à Amos. Et si vous ne pouvez pas trouver Amos, ne vous inquiétez pas. Écoutez seulement. Amos 1:3. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Damas, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Verset 6. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Gaza, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Verset 9. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes de Tyr, même de 4. Je ne révoque pas mon arrêt. Verset 11. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes d'Édom, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Verset 13. Ainsi parle l'Éternel. À cause de 3 crimes des enfants d'Ammon, même de 4, je ne révoque pas mon arrêt. Maintenant, vous trouvez une déclaration similaire, faite dans Job 33:29. Donc, les Juifs ont conclu que vous pouviez être pardonné 3 fois. Quand vous l'avez fait la 4e fois, vous avez eu le souffle du jugement divin. Alors ils ont dit, et bien sûr, ils ont mal interprété le passage, que cela justifiait la limite de 3 fois pour le pardon. Ils ont dit cela. Si 3 transgressions remplissent la mesure du pardon de Dieu, les hommes ne peuvent pas aller au-delà. Donc après 3 fois, c'est fini. Vous lisez des choses comme l'article de Rabbi Joseph ben Hanina qui a dit, « Celui qui demande pardon à son prochain » ne doit pas le faire plus de 3 fois. Ou Rabbi Joseph ben Jehuda qui a dit « Si un homme commet une infraction 1 fois, il lui sera pardonné. S'il commet une infraction 2e fois, il lui sera pardonné. S'il commet une infraction une troisième fois, il lui sera pardonné. La quatrième, il ne lui sera pas pardonné. Donc, quand Pierre pensait pardonner jusqu'à cette fois, il allait sans doute au-delà de sa propre tradition et était généreux. Il pensait probablement qu'il serait félicité, et il avait sans aucun doute une sorte de sourire complaisant sur lui-même, pensant à quel point il avait été généreux. Je pourrais ajouter, en sa faveur, que les 3 années passées avec Jésus avaient eu un impact sur lui. Il avait sans aucun doute repris l'esprit de Jésus, miséricordieux, généreux, aimable, gentil et pardonnant. C'est pourquoi il savait que Jésus irait au-delà de la tradition de son peuple, au moins 2 fois et 1 fois encore. Il a donc vu que Jésus aimerait certainement et pardonnerait au-delà de la limite du judaïsme. Il avait dans ce sens progressé au-delà des hommes de sa propre nation, et le Seigneur était sur le point de le conduire encore plus loin pour qu'il comprît pleinement ce qu'est la grâce. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit au verset 22 « 70 fois 7 fois ». Maintenant, cela a dû lui couper le souffle. Je veux dire, il a dû être littéralement abasourdi par la réponse, parce que c'est tellement disproportionné par rapport à la magnanimité qu'il avait conçue dans son esprit quand il a dit 7 fois. Je veux dire que vous ne vous attendiez pas à cette réponse. 490 fois. On peut se demander si cela est même possible. Maintenant, rien n'est vraiment contraignant. Vous ne gardez pas une liste pour dire « Très bien, cela fait 491 fois. Vous savez que vous avez terminé. » Jésus relève le chiffre de Pierre et le multiplie par 10, puis par 7. Il se contente de jouer avec le chiffre suggéré par Pierre et dit vraiment qu'il n'y a pas de limite. Il y a une sorte de comparaison intéressante dans le fait que, tandis que j'étudiais cela, j'ai lu dans Genèse 4, 24, où il est dit que la vengeance a été rapportée à 77 fois. Ici, le Seigneur dit que le pardon est 70 fois plus 7. Ainsi, quelle que soit la base, même pour une vengeance légitime, il en existe une infiniment plus grande pour le pardon gracieux. Notre Seigneur demande vraiment un nombre indéfini. Et juste pour vous montrer cela, cherchez dans votre Bible le passage qui se trouve dans Luc 17, 4. Si vous pensez que c'est ahurissant, regardez ce passage dans Luc 17, 4. C'est la vision de Luc sur le même sujet. Retour au verset 3. Prenez garde à vous-même. Si ton frère commet une faute contre toi, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. En d'autres termes, quand il se repent, vous lui accordez le plein pardon. Et s'il te maltraite 7 fois par jour, et 7 fois par jour, il te revient encore, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Encore une fois, il joue simplement le même refrain. Et si nous comparons Luc à Matthieu, ce que nous avons c'est « Dois-je lui pardonner 7 fois ?» Non, pardonnez-lui 70 fois 7 fois, même s'il pêche 7 fois par jour. En d'autres termes, c'est juste une hyperbole. Le fait est que c'est un pardon illimité. Pas de limite, pas de frontière au pardon. C'est une affaire très sérieuse. Regardez Jacques 2,13. Il est dit « Car le jugement est sans miséricorde pour qui ne fait pas miséricorde. » Avez-vous compris cela? Il y aura un jugement de Dieu qui sera sans pitié envers celui qui n'a montré aucune pitié. C'est une vérité très importante. Nous sommes appelés à la miséricorde. De retour dans Matthieu 5,7, vous souvenez-vous de la merveilleuse béatitude « Bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. » Nous en verrons plus à ce sujet dans quelques instants. Maintenant, la pensée est la suivante. L'étendue du pardon est sans fin, sans limite. Si une personne pêche 490 fois par jour, elle devrait être pardonnée. Donc, ne défilez pas votre vengeance et ne défilez pas votre amertume, votre colère et votre esprit impitoyable, comme si c'était une vertu. C'est le contraire d'une vertu. Ce n'est même pas à la gloire des humains. Encore moins une manifestation du cœur de celui qui a en lui l'Esprit de Dieu. L'enquête sur le pardon mène donc à la déclaration de Jésus sur l'étendue du pardon. Maintenant, je veux parler quelques instants de l'effet du pardon. Pour faire cela, je veux vous attirer à Matthieu, chapitre 6. Nous allons laisser notre premier passage pour un moment et revenir à Matthieu, chapitre 6, car je souhaite apporter dans ce passage particulier la leçon du chapitre 6. Nous sommes donc appelés à pardonner. Je vais vous donner plusieurs raisons à cela. Je les ai passées en revue dans notre étude de la prière du disciple dans Matthieu 6. Premièrement, nous sommes appelés à pardonner à cause de l'exemple de Jésus-Christ, Éphésiens 4, 32. Et nous avons été pardonnés par Dieu, pour l'amour de Christ. Et nous devons donc nous pardonner les uns les autres. Nous sommes appelés à pardonner, parce que Christ nous a donné cet exemple. Deuxièmement, nous sommes appelés à pardonner, car c'est le meilleur de l'homme, comme il est dit en Proverbe 19, 11. Troisièmement, nous sommes appelés à pardonner, parce que c'est le caractère des saints de le faire. Cela fait partie de la vertu chrétienne. Quatrièmement, nous sommes appelés à pardonner afin de libérer notre conscience de la racine d'amertume, ce qui est enseigné dans l'Épître aux Hébreux. Cinquièmement, nous devons pardonner afin de nous délivrer de Satan. 2 Corinthiens 2 dit qu'il obtiendra un avantage sur nous si nous ne le faisons pas. Et sixièmement, nous devons pardonner afin de nous libérer du châtiment divin. Avez-vous compris cela? Ce sont des choses très importantes. Nous devons pardonner parce que c'est l'exemple de Christ. Nous devons pardonner car c'est la gloire de l'homme. Nous devons pardonner parce que c'est le caractère des saints. Nous devons pardonner car cela libère notre conscience de la racine de l'amertume. Nous devons pardonner car cela nous libère de l'avantage de Satan. Nous devons pardonner car cela nous libère du châtiment de Dieu. Un de plus, nous devons pardonner, sinon nous ne serons pas pardonnés. Est-ce que vous avez compris cela? Nous devons pardonner, sinon nous ne serons pas pardonnés nous-mêmes. Jacques 2,13, je viens de vous le lire. Car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde? Regardez Matthieu 6,12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ensuite, le commentaire est donné au verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Maintenant écoutez, c'est une déclaration monumentale sur le pardon, parce que si vous ne pardonnez pas, vous ne recevrez pas le pardon. Vous dites, est-ce qu'il parle aux chrétiens? Oui, c'est la prière du croyant. Si vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes même pas dans cette prière, car vous ne pouvez pas dire, au verset 9, qui adresse la prière à qui? À notre Père. Vous dites, comment un chrétien peut-il avoir un péché non pardonné? Si vous ne pardonnez pas à quelqu'un d'autre, en tant que chrétien, deux choses se produisent. Premièrement, vous ne pouvez pas connaître le pardon de Dieu en termes de communion, de camaraderie, de joie, tout ce qui devrait être entre vous et le Seigneur. Deuxièmement, vous verrez son châtiment, parce que Dieu, quand il a un compte arriéré de péché que Dieu n'a pas pardonné, cela va entraîner dans votre vie un certain châtiment pour assainir cette zone non raffinée. Comprenez-vous? Donc, il y a deux côtés. Lorsque vous ne pardonnez pas à quelqu'un d'autre, vous n'éprouvez pas toute la joie de votre salut, et ensuite vous ressentez la pression et les châtiments divins. Examinez donc votre vie, regardez-la et dites, « Je ne vois pas la joie que je devrais ressentir dans ma vie. Je ne ressens pas une plénitude spirituelle. Je ne vois pas la puissance de Dieu dans ma vie. En revanche, il me semble que je suis toujours châtié. Je me bats toujours. Il y a toujours des soucis dans ma vie. J'ai examiné ma vie. Je ne vois aucun péché moral. Je ne vois pas ceci ou cela. » Ensuite, vous revenez en arrière et découvrez si, en fait, il n'y a pas dans votre cœur quelque chose que vous n'avez jamais pardonné à quelqu'un. Vous gardez une certaine rancune, une certaine amertume. Car si vous ne pouvez pas pardonner, vous ne ferez jamais l'expérience du pardon de Dieu. Et c'est ce que le passage nous dit. Même si vous mourrez et vous allez au paradis parce que vos péchés sont payés, d'une façon transactionnelle, en Christ, ils sont pardonnés. Vous ne pouvez pas ressentir la plénitude de cela, parce que vous n'avez pas pardonné. Maintenant, ce n'est pas une vérité isolée. Vous l'avez vu dans Jacques 2,13. Vous l'entendez encore dans la prière du disciple. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, écoutez Marc 11,25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Là encore, c'est la même chose. C'est donc une vérité très importante. Dans Matthieu 6,12, nous devrions noter quelque chose. En grec, il est dit, « Pardonne-nous nos dettes, comme nous avons pardonné à nos débiteurs. » C'est très important, car cela met notre pardon devant le pardon de Dieu. Dieu nous pardonne, comme nous avons pardonné. Lorsque nous prenons soin du pardon, alors Dieu garde le canal de son propre pardon béni qui coule. Donc, vous pensez peut-être à 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous savez, c'est la vie du chrétien qui continue à confesser. Dieu continue à pardonner et à laver, mais seulement lorsque nous pardonnons aux autres. Cela dresse un mur si nous ne le faisons pas. Oswald Sanders a déclaré « Jésus traite avec nous comme nous traitons avec les autres. Il nous mesure à l'un des critères que nous utilisons pour les autres. La prière n'est pas « pardonne-nous parce que nous pardonnons aux autres », mais « pardonne-nous comme nous avons pardonné aux autres ». Le pardon est donc fondamental pour être soi-même pardonné. Alors, quel est l'effet du pardon? Vous avez pardonné aux autres, et alors que se passe-t-il? Dieu vous pardonne. Vous dites, « Qu'est-ce que cela signifie quand Dieu me pardonne? Cela signifie que je peux faire l'expérience de la plénitude de la communion fraternelle, et que je me retire du lieu de châtiment pour entrer dans un lieu de bénédiction. » Soit dit en passant, quand il est dit, « Pardonne-nous nos dettes », les dettes sont des dettes spirituelles et se réfèrent au péché. C'est parce que le verset 14 dit « offense » en assimilant les dettes et les offenses. Nous savons que dans l'autre récit de cette instruction et de cette prière, le mot « offense » apparaît. Ce sont donc nos péchés, et nous devons les rejeter littéralement. En jetant les péchés des autres contre nous, les nôtres aussi sont jetés. Revenons maintenant à Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. C'est le même principe, n'est-ce pas? C'est exactement le même principe. Si vous voulez la miséricorde de la part du Seigneur lorsque vous péchez, vous feriez mieux de faire miséricorde à l'égard des autres. Pensez-y de cette façon. Je viens de penser à cela en termes d'une déclaration concise. Vous ressemblez beaucoup à Dieu. Vous ressemblez beaucoup à Dieu quand vous pardonnez, n'est-ce pas? Voulez-vous être comme Dieu? Tout le monde dit, je veux être pieux. Bien, puis-je vous suggérer que la piété ne peut pas être le fait de mémoriser 1000 versets, autant que le fait de pardonner. Je veux dire, il devrait y avoir le fruit de cette mémorisation. La piété, c'est pardonner, parce que vous ressemblez beaucoup à Dieu quand vous faites cela. C'est la substance de la vraie spiritualité. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Je pense que c'est un constat de fait concernant le croyant. Je crois que les personnes dans le royaume de Dieu sont miséricordieuses. Quand nous avons étudié cette béatitude, nous avons dit que nous croyons que les personnes sont miséricordieuses parce qu'elles ont connu la miséricorde. Donc, si vous n'êtes pas miséricordieux, vous contredisez réellement votre propre nature. Je veux dire, vous vous battez contre qui vous êtes en Christ. Vous avez été pardonné. Vous devenez une personne qui pardonne parce que vous comprenez ce pardon. Mais il est tout à fait possible, en tant que chrétien, de passer une période de désobéissance dans votre vie où vous ne pardonnez pas aux autres et vous violez vraiment la preuve même de votre salut. Si vous voulez en parler à un chrétien, cherchez quelqu'un qui sache pardonner, parce qu'il a été pardonné lui-même. Le vrai pardon du pécheur de Dieu, je pense, transforme la personne. Cela lui donne un cœur de pardon envers les autres. Si vous êtes vraiment chrétien et que vous avez vraiment été pardonné, alors vous allez comprendre ce qu'est le pardon. Si vous ne comprenez pas du tout, on peut se demander si vous ne l'avez jamais réellement vécu. Laissez-moi vous emmener à un autre passage. Même livre, Matthieu 5, 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens. En d'autres termes, il le dit aux Juifs. Ceci est votre tradition. Cette petite déclaration, vous avez entendu dire que cela avait été dit aux anciens, qui se répète dans ce chapitre, est une identification de leur tradition juive. Votre tradition dit « Tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. » En d'autres termes, leur tradition disait « Ne tuez pas quelqu'un. Vous risqueriez d'être mis en prison. » C'est à peu près tout. C'est très peu profond. Ne tuez pas quelqu'un, car si vous le faites, vous risquez d'être jeté en prison. Il n'y a pas de problème moral ici. Assurez-vous de ne pas être jeté en prison. C'est pourquoi vous ne tuez pas. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère, sans que cela soit une cause sainte, mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère « raca ». Soit dit en passant, c'est une épithète intraduisible de verbiage malveillant, insensé, ce genre de choses. C'est plus que simplement le dire avec des gestes, c'est le dire avec du venin. Lorsque vous dites cela, vous êtes en danger par rapport à ce conseil, car quiconque vous appelle fou, moros en grec, c'est l'appel moqueur et abusif d'un individu débile. qui mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, tu allais louer le Seigneur, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Pourquoi ? Parce que vous ne pourrez pas adorer le Seigneur au culte, vous ne pourrez pas communiquer avec Dieu, tant que vous n'avez pas résolu cette attitude de pardon. C'est encore et toujours la même chose. D'abord la réconciliation, puis la louange. Nous pardonnons d'abord, puis nous sommes pardonnés. Nous sommes donc appelés à examiner nos propres vies. Êtes-vous comme Dieu ? Votre cœur a-t-il envie de pardonner ? Nous sommes tous lésés, directement et indirectement. Votre cœur est-il libre de pardonner, même si cette injustice vous touche intimement, profondément ? Pour moi, juste à titre de témoignage personnel, les douleurs les plus profondes surviennent lorsque des personnes parlent mal contre moi et qui veulent détruire ma réputation. J'entends parler de choses incroyables qui sont censées être vraies à mon sujet. C'est incroyable. Ce sont les choses qui me font le plus souffrir, les fausses critiques, les allégations et accusations, et je trouve que celles-ci sont pour moi le test d'un cœur qui pardonne. J'ai demandé à Dieu de me donner la grâce de pardonner. Je ne veux pas garder rancune, une amertume, même pendant 5 secondes. Je suis si enthousiaste quand j'entends cela. Suis-je impatient de faire une prière ? Ô mon Dieu, mets en moi le cœur du pardon, afin que je puisse communier avec toi dans la plénitude de la communion fraternelle et de la joie. Ne pas expérimenter le châtiment qui survient lorsque tu ne me pardonnes pas. Puis-je me rappeler que pour tous ceux qui pêchent contre moi, j'ai multiplié les péchés contre toi. Tu as toujours pardonné. À aucun moment, aucun de mes péchés ne m'a fait perdre ma vie éternelle. Le péché de quelqu'un d'autre ne devrait pas leur faire perdre mon amour et ma miséricorde à leur égard. Après avoir fait cela, alors vous cherchez à poursuivre la restauration envers la fraternité, afin que vous puissiez avoir de la joie. Après avoir fait cela, vous démontrez le véritable cœur du pardon, en rendant cette personne quelque chose de très précieux, et vous lui confierez peut-être une responsabilité. Prions. Notre Père, nous te remercions d'avoir pu lire ta parole ce matin et exposer à nouveau nos cœurs à sa puissante vérité. Nous devons tous être pardonnés. Nous avons besoin que les personnes de notre maison nous pardonnent. Notre femme, notre mari, nos enfants. Nous avons besoin que les personnes avec qui nous travaillons chaque jour nous pardonnent. Les personnes qui assistent à nos études bibliques et la famille de notre Église doivent nous pardonner parce que nous sommes des enfants. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous sommes faibles, ignorants, indisciplinés à bien des égards, enclins à désobéir, volontaires. Ce n'est pas une question de savoir qui d'entre nous a péché et qui a besoin de pardon. C'est seulement une question de savoir quels sont nos péchés. Car nous avons tous péché, même depuis que nous avons embrassé Christ. Donc, l'Église doit être une assemblée qui pardonne, un peuple qui pardonne, qui donne avec empressement, afin de pouvoir recevoir le pardon de Dieu. Puissions-nous connaître, Seigneur, cette fraternité pleine, riche et joyeuse. Puissions-nous connaître le bonheur d'être épargnés par les châtiments, parce que nous avons pardonné aux autres. Puissions-nous démontrer notre rédemption. Puissions-nous être des illustrations vivantes d'heureux sont les miséricordieux, car ils montrent qu'ils ont obtenu la miséricorde. Puissions-nous être pour les autres comme tu l'es pour nous. Père, puissions-nous ne jamais venir au culte pour apporter un cadeau, avec un cœur impitoyable envers un frère, mais que nous passions d'abord par le pardon, puis ensuite l'adoration. Quand nous avons suivi le chemin de la discipline et gagné un frère, et quand nous avons pardonné et rétabli la communion avec ce frère ou cette sœur, mais qu'ils aient de nouveaux péchés contre nous, puissions-nous leur pardonner encore et encore, sans limite, comme tu nous pardonnes gracieusement, sans limite. Il n'y a jamais de limite à notre pardon, jamais de limite au tien. Alors nous serons comme toi, alors nous serons transformés à ton caractère. Ensuite nous marcherons comme Jésus a marché, car, quand il a été insulté, il n'a pas répondu. Quand on se moquait de lui, quand il a été blasphémé, assassiné, il a dit, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comme Étienne, quand il a été maltraité, lapidé à mort, sans le mériter, nous puissions dire, « Ne retenez pas cela contre eux. Donne-nous le cœur du pardon pour que chaque blessure soit instantanément guérie que toutes les barrières soient immédiatement supprimées et que tous les murs soient instantanément démolis. Merci pour ce que tu accompliras en et à travers nous lorsque nous sommes obéissants. Alors que nos têtes sont inclinées pour clôturer ce culte, voudriez-vous faire une prière personnelle pendant juste un instant de silence, afin que Dieu fasse de vous une personne qui pardonne? Maintenant, identifiez une personne envers qui vous avez eu du mal à pardonner, et soyez comme Dieu, et pardonnez. Dites simplement « Seigneur » et murmurez le nom en silence. « Je pardonne à cette personne, et peut-être qu'il y en a plus d'une. » Et ensuite dites « Seigneur, peut-être à cause d'un manque de pardon dans ma vie, j'ai été châtié, et je n'ai jamais expérimenté la plénitude de ton pardon. Si c'est vrai, j'avoue que c'est un péché. Explique-moi comment cela peut être corrigé. Ayant commencé avec le pardon du cœur, va voir ton frère ou ta sœur et cherche à être restauré en donnant quelque chose de valeur, peut-être toi-même. Père, merci pour ce que tu accomplis à travers ta parole ces jours-ci. Ces vérités sont si importantes. Fais de nous un peuple indulgent, qui ne porte pas de rancune. Ne laisse aucune blessure se développer, mais le cœur est si rempli de grâce et de miséricorde de la part de l'Esprit miséricordieux qui y vit, que nous en ayons plus qu'assez pour tous ceux qui nous offensent, de manière à pouvoir pardonner 490 fois par jour et ne jamais épuiser les cœurs du pardon, nous qui avons été tellement pardonnés. Merci pour ce que tu vas faire dans nos cœurs tout au long de cette journée. Rassemble-nous à nouveau ce soir avec beaucoup d'empressement pour le développement de ta parole. Fais-en un jour spécial. Bénis tous les groupes qui vont se réunir ce matin. Puissent-ils aussi être pour ta gloire et l'édification de ton peuple. Au nom de Jésus, amen.
Pour de plus amples renseignements, ainsi qu'un accès gratuit aux leçons de John, connectez-vous à Une Grâce pour vous sur le site gty.org. Le site vous offre la possibilité d'acheter la Bible d'études de MacArthur, qui est la principale ressource financière du ministère de John. Le site vend toutes les traductions disponibles. Par contre, il n'est pas possible de la fournir gratuitement pour chaque pays où ce message est entendu. John MacArthur et Une Grâce pour vous sont dépositaires du copyright pour tous ces messages. Nos conditions en ce qui concerne la duplication des messages sont indiquées sur le site gty.org.